leur chant. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Li Houfan. Vous êtes artiste, écrivain, philosophe, vous êtes né en Corée, vous habitez le Japon et un peu la France de temps en temps, vous avez aussi un atelier, mais au départ, vous vous consacriez à quoi? Quelle a été la nourriture artistique la plus importante durant votre enfance?
나는
Je ne suis qu'un artiste et je ne me considère pas comme un philosophe ou un écrivain. J'ai appris à peindre quand j'étais petit, mais je n'étais pas vraiment déterminé à devenir un artiste. J'aimais plutôt la littérature. Quand j'étais collégien et lycéen, j'écrivais des poèmes et des nouvelles. À l'âge de 20 ans, je suis allé vivre au Japon. Comme je ne parlais pas le japonais, je me suis dit qu'il était impossible de continuer la littérature. Alors j'ai étudié la philosophie à l'université. J'ai l'impression que j'ai été embrouillé pendant longtemps et que je me suis rendu compte un jour que j'étais devenu artiste. Par contre, dans mon enfance, j'aimais écouter de la musique et lire. Et l'art était toujours une sorte de fantasme pour moi. À cause de ce fantasme sur l'art, que j'ai depuis tout petit, je ne suis pas facilement sceptique, je n'ai pas de croyances particulières et je n'adopte pas une approche positive. J'ai été plutôt très curieux de savoir tout. J'étais sensible à la moindre des choses, même un mégot de cigarette pouvait susciter ma curiosité. J'ai essayer de garder cette sensibilité qui m'a appris beaucoup de choses pendant toute ma vie. Ce qui est important, c'est la rencontre avec quelque chose ou quelqu'un, et c'est un sujet majeur dans mon travail.
Est-ce que ça s'apprend à devenir un artiste ou est-ce que ça se perçoit à l'intérieur de son être, Li Houfan?
Je pense que les deux cas sont possibles. Se percevoir de l'intérieur est une idée qui renvoie à la philosophie moderniste, mais partir de l'intérieur est très difficile à faire. C'est tellement difficile que cela provoque beaucoup de problèmes. De ce fait, je ne crois pas beaucoup en l'idée de partir de soi-même. Pour moi, la rencontre entre l'intérieur et l'extérieur est importante et c'est à partir de ce va-et-vient que l'on doit commencer la réflexion.
Vous écrivez dans des textes que vous avez publiés qui ont été traduits en français sous le titre « Un art de la rencontre », vous écrivez Li Houfan « Je pense avec ma tête, je peins avec mes mains et je ne trouve mes pierres que si mes jambes me mènent à la rivière ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire dans votre pratique artistique?
Mon travail, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne part pas de moi-même, mais d'une rencontre. Par exemple, Cézanne a peint le Sainte Victoire. beaucoup de critiques disaient qu'il l'interprétait à sa manière. Mais je pense que Cézanne dialoguait avec le Sainte-Victoire et la communication se réalisait sur un cahier de dessin ou sur une toile. Donc, les idées de Cézanne et le Sainte-Victoire se rencontraient sur un cahier de dessin ou sur une toile. Ceci dit, pour un artiste, ce qui est plus important que des concepts, c'est le corps. Avec le corps seul, on obtient des sensations. C'est par le corps que l'intérieur rencontre l'extérieur. L'expression doit être faite par le corps et cela doit être le point de départ de tout.
La peinture est-elle attente pour vous? À partir de quand vous commencez à peindre sur le tableau?
C'est une question très intéressante. Peindre, commencer par l'attente, on dirait une expression coréenne. En coréen, la prononciation du mot peindre fait penser à la nostalgie et à l'attente. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Quand on voit une chose et que l'on en ressent quelque chose, on commence à réfléchir et l'on dessine. Quand cette rencontre entre ce qui se trouve à l'intérieur de soi et l'extérieur devient une résonance, et là, on peut peindre sur une toile. L'idée n'existe pas avant le tableau et l'extérieur ne se retranscrit pas sur un tableau. Au moment où la rencontre de l'intérieur avec l'extérieur se métamorphose en quelque chose d'autre, le tableau se réalise.
Vous écrivez, Lifan, la toile et moi jouons sans cesse, par l'intermédiaire du pinceau, une partie de ping-pong serrée. À travers ce mouvement répétitif de correspondance, un plan pictural plein de tension s'organise sur la toile, imprimant également sa trace en moi. Les vibrations de l'œuvre viennent de ce mécanisme et de sa physiologie. C'est pourquoi la personne qui se trouve face à l'œuvre doit avoir la force de recevoir ce que celle-ci lui envoie et de le renvoyer en retour. Qu'espérez-vous de nous? Car quand on voit votre travail, effectivement, notre corps, mais aussi peut-être notre âme, en tout cas une partie de notre cerveau, est mise en jeu. Est-ce que c'est ce que vous cherchez dans votre pratique artistique?
L'artiste, quand il peint, par l'intermédiaire du pinceau ou d'autres outils, réalise son tableau. De la même façon, quand un spectateur regarde un tableau, il ne le voit pas comme s'il l'absorbait, mais le tableau et lui se rencontrent. Pour qu'il y ait une rencontre, il faut un corps et une sensation. La rencontre entre le spectateur et le tableau crée une résonance et c'est dans cette résonance que se trouve le spectateur et le tableau. Il ne faut pas regarder le tableau comme un objet. Le spectateur ne doit pas être indifférent. Quand il ressent qu'il y a un va-et-vient entre le tableau et lui, qu'il est dans la résonance et qu'il est confondu avec lui dans le monde, il peut enfin dire qu'il est en train de regarder le tableau et qu'il est avec le monde. Il faut donc dépasser l'idée de regarder un tableau en tant que spectateur. Il faut sentir qu'on est dans le monde avec le tableau. C'est à partir du moment où on ressent qu'on est dans l'espace de la résonance vivante créée par le tableau et soi que l'on regarde véritablement le tableau.
Nous allons écouter la voix de Merleau-Ponty qui va nous parler de sa pratique philosophique. C'est un homme qui a beaucoup compté pour vous.
Ce que je peux dire, c'est que la philosophie m'est apparue d'emblée comme quelque chose d'extrêmement concret. Pas du tout comme construction de concepts, de systèmes, mais plutôt comme expression, élucidation, explicitation, comme vous voudrez dire, de ce que nous vivons tous et de ce que nous vivons de plus concret. Et je crois que certains deviennent philosophes parce qu'ils sont le siège de conflits, soit parce qu'il y a en eux des tendances contradictoires, alors ils éprouvent le besoin d'arbitrer ces tendances ou de choisir entre elles. Ça n'est pas du tout mon cas. J'ai conçu la philosophie comme, non pas du tout comme un drame dès ce moment-là, mais plutôt comme, enfin, comme quelque chose d'assez apparenté en somme à l'art, si vous voulez, c'est-à-dire comme une tentative d'expression rigoureuse, de faire passer en mots ce qui, d'ordinaire, ne se met pas en mots, ou ce qui, même quelquefois, est considéré comme de l'ordre de l'inexprimable. Voilà le genre d'intérêt que la philosophie a suscité chez moi d'emblée.
Comment Merleau-Ponty et toute la phénoménologie vous ont inspiré, Liu Fan ? Parce qu'on parle de vous comme sculpteur, comme peintre, reconnu dans le monde entier, visible partout dans tous les grands musées du monde entier, et actuellement, on y reviendra tout à l'heure, en ce moment même à Versailles, où vous avez succédé à Jeff Koons et aussi à Pennone. Mais il y a aussi tout le travail philosophique. Et pendant un bon moment, pendant une bonne décennie, vous avez été un penseur qui avait inventé le concept de mono-A. Et comment l'avez-vous inventé? À quoi cela a-t-il correspondu? Et est-ce que la philosophie française vous a inspiré?
Le mot mono-A est composé de mono, qui veut dire chose, les objets, et ha, qui signifie école. Mono-A est né dans un contexte précis. Avant, l'artiste devait créer tout par ses propres moyens. L'artiste créait ses œuvres et les disposait à des lieux d'exposition. L'œuvre en tant qu'objet était donc importante. Les artistes du mono-A ont voulu produire le moins possible et ont tenté de protester contre la production. Ils sont partis avec une idée critique sur la surproduction et sur la consommation massive. Nous avons essayé de produire moins et nous voulions réfléchir sur la partie non créée et lui donner la parole. Ainsi, nous recherchions à nous exprimer à partir de la rencontre entre ce qui est fait et ce qui n'est pas fait. Nous avons essayé en tant qu'artiste de ne pas tout créer et de donner la parole à ce que l'on n'avait pas créé. Nous avons également tenté de créer l'objet minimaliste et de le mettre en relation avec l'immensité qui l'entoure pour qu'il nous raconte une plus grande histoire. C'était l'objectif du mono-A. Il était une introduction importante à la critique sur la civilisation moderne et j'en suis fier. En ce qui concerne mon travail, c'est pareil. J'expose à Versailles. Il y a des objets, mais les spectateurs ne se contentent pas de les regarder. Par exemple, j'ai installé une arche, mais au lieu de la regarder, les spectateurs se rendent compte de l'immensité du ciel et de la beauté du paysage. Ils ne s'intéressent pas à l'auteur de l'œuvre, peu importe. Ce qui est important, c'est que quand ils sont devant mes œuvres, ils arrivent à ressentir le monde et à y penser. C'était un défi pour moi et j'estime qu'il a été relevé avec un certain succès.
Alors, ce qui est extraordinaire dans ce que vous nous proposez à Versailles, Liu Fan, c'est qu'effectivement, vous nous faites regarder l'architecture, mais aussi le paysage, la nature, les inventions de Le Nôtre différemment. Et pour cela, je pense que vous avez dû aller habiter corporellement différents paysages de Versailles. Et je pense notamment à cette œuvre que vous nous proposez où on est obligé de voir cette nature un peu sauvage et cette ondulation des herbes qui se reflète dans l'une de vos sculptures. Est-ce que pour vous, l'art, c'est d'abord l'observation, ensuite l'intériorisation de la sensation, ensuite la délivrance de ce que vous pensez pour nous faire ressentir.
Ma réponse sera similaire à ce que vous venez de dire. André Le Nôtre, au XVIIIe siècle, a créé un monde parfait selon ses concepts. Que ce soit les arbres ou l'espace, pour représenter ses idées, il a aménagé et modifié la forme de tout ce qui s'y trouvait. C'est une très bonne représentation de la grandeur de l'imagination et de la créativité de l'homme. Mais tout est trop modelé. Et quand on arrive à Versailles, on entre dans les concepts de l'honneur. La première expérience de ce type d'espace peut être intéressante, mais si l'on tente d'aménager le monde entier de la même façon, c'est problématique. Depuis que l'on m'a proposé d'organiser une exposition à Versailles, j'y ai effectué plusieurs visites en tant qu'artiste. Bien évidemment, comme je suis intéressé par l'histoire et par les sites historiques, je l'avais déjà visité plusieurs fois, mais je n'imaginais pas qu'un jour j'y ferai une exposition. Quand je l'ai visité avec l'idée de préparer une exposition, j'ai dû me poser la question de ce que je pouvais faire dans un espace si parfait. Après plusieurs passages, je me suis dit, le jardin est conçu d'une manière parfaite, mais l'univers n'est pas parfait. Même si l'homme tente de réaliser quelque chose de parfait, il existe toujours une partie imparfaite. J'avais l'impression que André Lenôtre me chuchotait à l'oreille, « Tu vois, j'ai créé cet espace. Alors, montre-moi ce qui n'est pas encore fait. » Il murmurait. Ce moment m'a ouvert les yeux et j'ai éprouvé une drôle de sensation. La réponse que j'ai trouvée était la proposition de l'infini. L'infini est une notion opposée au parfait. Quand je me suis rendu au parterre d'eau qui donne sur le Grand Canal, un souvenir m'est revenu à l'esprit. Il y a 24-25 ans, au Japon, je marchais en suivant un long chemin après la pluie. J'ai vu un arc-en-ciel qui l'enjambait. Il était très beau et je marchais dans sa direction. J'avais envie de créer une œuvre aussi belle que lui, mais j'ai oublié cette idée assez vite. Je ne m'en souvenais plus jusqu'au moment où je me suis trouvé sur le chemin du château qui menait au Grand Canal. Soudain, le souvenir de l'arc-en-ciel a ressurgi et j'ai eu envie de disposer une arche qui rappellerait l'arc-en-ciel. Donc, le fait de me mettre sur le chemin m'a permis de me remémorer de ce vieux souvenir. Je vous donne un autre exemple. Avant d'arriver au Grand Canal, il y a le tapis vert qui fait 300 mètres. Au début, je n'avais pas tellement d'idées d'œuvre pour ce lieu. En effectuant plusieurs va-et-vient, un jour, j'ai vu que les herbes hautes ondulaient avec le vent comme des vagues. J'ai eu l'idée de l'œuvre « L'âme du vent » à l'image de cette ondulation mécanique. Le vent soulevé traversait le tapis vert pour arriver au Grand Canal et j'avais envie d'une œuvre mécanique qui pouvait recréer cette vibration. Je me suis dit que cette œuvre pourrait donner de la vitalité à cet espace. Ainsi, l'espace et le moment qui entraient en discussion avec moi m'ont donné l'inspiration de mes œuvres. Je me suis dit également qu'elle pourrait donner aux spectateurs une sensation similaire à celle que j'avais eue. Même sans mon nom, je pense qu'un nouveau monde pourrait s'ouvrir.
Nous allons écouter la voix de Pennon. Pennon, un des maîtres de l'arte povera. Pennon, qui a occupé, entre guillemets, Versailles il y a maintenant un an.
Comme un château, c'est surtout un château comme celui de Versailles, c'est une architecture qui a dans chaque partie de ces éléments d'architecture le souvenir des arbres. C'est une, comme souvent l'architecture, c'est quelque chose qui est bâti à et ressemble à, la, à une structure qui a ses racines dans le végétal, dans la forêt.
De quelle façon?
Si vous imaginez la colonne avec le chapiteau, tout ça, c'est des éléments qui sont végétales. Même les corniches qu'il y a dans l'architecture, en italien, on appelle ça foglie, feuille. et fait en effet la projection de la forme d'une feuille qui devient la corniche de l'architecture. Alors, c'est quelque chose qui est parfaitement intégré, ou bien qui a une dérivation qui est complètement naturaliste, de synthétisée et rendue abstraite. Mais la base, c'est là.
Donc, ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de frontière si marquée entre la nature et l'artifice ?
Après tout, oui, parce qu'on oublie souvent qu'on est nature et que ce qu'on fait souvent a la trace de la nature. Et surtout, c'est notre corps, l'anthropomorphisme de notre corps qui est projeté à l'extérieur et qui nous permet d'identifier les éléments qui nous entourent.
Alors pourquoi, Liu Fan, avez-vous décidé, non pas de faire différemment de Pennone, mais de suivre finalement en quelque sorte son chemin? Souvent les artistes se différencient et font tout à fait autre chose que leurs prédécesseurs. Et vous, notamment dans un bosquet qu'avait pris Pennone pour nous faire réfléchir, eh bien vous avez fait une installation qui questionne et qui nous fait partir très loin. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez repris ce lieu choisi par Pennone et ce que vous nous proposez de si mystérieux à l'intérieur de ce bosquet ?
Pennone est un vieil ami. Depuis plusieurs dizaines d'années, nous nous discutons souvent et nous nous entendons bien. C'est un ami très sympathique et je le respecte. Son exposition de l'année dernière m'a beaucoup ému, mais son expression des choses est complètement différente de la mienne. Les thèmes principaux de Pennone sont l'arbre et la vie. Bien qu'il y ait beaucoup d'arbres au château de Versailles, ils sont invisibles. Ils sont cachés par les concepts d'André Le Nôtre. Avec ses œuvres, Pennone a fait ressortir la forme des arbres du château et leur liaison à la vie. Il nous a fait saisir l'univers et l'infini que contient l'arbre. Mais il s'exprime très différemment de moi. Par exemple, au Bosquet des Étoiles, Pennone a disposé un arbre sur lequel une grande pierre était installée. C'était un phénomène irréel et inimaginable dans la vie normale. Pennone a créé avec cette œuvre une ambiance mystérieuse et nous a offert une expérience envoûtante. Mais moi, j'ai pris une approche différente. J'ai installé un champ de gravier comme si c'était du désert. Ensuite, j'ai voulu faire revenir les grandes étoiles de l'histoire disparue il y a quelques centaines d'années pour qu'elles y viennent discuter avec elles. Les ombres de ces étoiles chuchotent et se racontent des histoires de la dimension de l'univers. Avec cette œuvre, j'ai voulu montrer le caractère mystérieux de la nature et de la vie. Ainsi, j'ai essayé d'exprimer leur existence harmonieuse et la vibration créée par leur rencontre. Le fait de proposer une place où on peut ressentir un monde beaucoup plus grand et peut-être un point commun que j'ai avec Pennone. Comme Pennone, au lieu d'exposer mes œuvres, j'essaie de donner un indice à ma manière qui fait penser à la nature et à l'univers et les fait sentir. Sur ce point-là, nous marchons sur un chemin similaire.
Alors, vous êtes peintre, et on reviendra sur votre pratique de la peinture et sur la monochromie, Liu Fan, mais vous êtes aussi sculpteur. Et vous êtes un sculpteur très particulier, puisque ce qui vous intéresse, c'est pas tellement l'érection de monuments, c'est la mise en relation de matériaux. Est-ce que vous pourriez définir votre art de la sculpture ?
Vous avez raison.
L'édification
de mes idées ne m'intéresse pas. Avec les matériaux, par exemple,
Il y a beaucoup de pierres qui sont plus anciennes que la Terre. On peut dire que les pierres venues des autres planètes ont formé la Terre. Voir une pierre signifie donc que l'on est face à un temps qui représente plus de plusieurs centaines de milliers d'années. L'homme a extrait certains éléments de la pierre, de les industrialiser et en a fait un objet abstrait, c'est la plâtre fer. La plâtre fer provient de la pierre et la société industrialisée provient de la nature. Si j'utilise la plâtre de fer et la pierre comme matériaux, c'est parce que je veux mettre en relation la société industrialisée avec la nature pour qu'elle discute. La signification des matériaux est importante. Les matériaux ne sont pas le centre de mes œuvres. Les matériaux sont le corps, c'est le corps du monde. En disposant ces corps pour qu'elle ait une vitalité, ils se dotent d'une force. Cette force donne aux gens une puissante sensation. Je ne pense pas que je crée des œuvres. Je prends des pierres et des plaques de fer qui vivaient dans leur coin et je les fais se rencontrer en essayant de montrer aux gens une autre vie qu'elles vivent ensemble. Je ne suis donc pas un créateur, mais plutôt un coordinateur ou un conducteur. Pour moi, l'artiste n'est pas un créateur. C'est juste un intermédiaire qui rassemble des éléments et les fait se rencontrer. Donc, un artiste ne doit pas imposer ses idées.
C'est-à-dire que vous considérez, Liu Fan, que vous êtes dépositaire de forces qui vous habitent et qui nous habitent peut-être, mais que l'acte de création n'existe pas vraiment pour vous.
Si, l'acte de création artistique existe, mais même les gens ordinaires, en préparant une très bonne cuisine, en fumant une cigarette d'une façon élégante ou encore en marchant dans les rues avec une belle allure, font des activités artistiques. Et si en regardant les branches qui bougent au matin, on s'en est émotion en soi, c'est aussi un art artistique. Tout le monde a donc une dimension d'artiste. Mais les artistes rendent cette sensation qui reste éphémère pour les autres durable pour que les gens ordinaires l'apprécient plus longtemps. Les artistes généralisent et rendent durable cette sensation éphémère. Ils ne découvrent pas ou ne proposent pas quelque chose d'exceptionnel, mais ils font ressortir, revoir et ressentir les choses banales que tout le monde sait. Bref, le travail de l'artiste n'est pas si important que ça.
Par exemple, à la toute fin des années 60, au début des années 70, vous avez fait toute une série d'œuvres qui s'intitulent « Toute relation », et dont les supports peuvent être différents. Ça peut être des craies sur caoutchouc avec des pierres. Et par exemple, j'ai notamment la reproduction donc d'une sculpture, ce qu'on peut appeler une sculpture, qui s'intitule Relation, qui est datée de 71, et qui est un caoutchouc avec des pierres qui semblent être en béton. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette œuvre, Liu Fan, et nous expliquer comment vous l'avez conçue, et puis après je dirai ce qu'elle peut nous inspirer et si ça correspond peut-être à ce que vous avez souhaité.
Cette œuvre a été exposée à la Biennale de Paris en 71 constitué d'une grande nappe en caoutchouc et de quatre pierres posées à chaque coin de la nappe. Les trois pierres maintiennent la nappe en caoutchouc étirée, alors que la dernière pierre se trouve à l'extérieur de la nappe. On s'attend à ce que les quatre pierres maintiennent les quatre coins de la nappe étirée, mais comme une d'entre elles ne correspond pas à cette attente, l'œuvre ou la position des pierres fait réfléchir avertir les gens sur l'équilibre et le déséquilibre. Le caoutchouc est étirable et en disposant des pierres après l'avoir tendu, on peut voir la trace de la tension. Mais cette pierre qui ne résiste pas son poids sur le caoutchouc et qui semble être indifférente à la nappe donne l'impression qu'elle a une relation avec le caoutchouc. Une relation sans relation est créée. La disposition des pierres sur et en dehors du caoutchouc incite les gens à réfléchir sur la relation entre l'intérieur et l'extérieur. Cela fait également réfléchir à la manière dont ce qui se trouve à l'extérieur fonctionne avec ce qui est à l'extérieur et comment ensemble ils créent une relation. Cette œuvre rappelle aussi aux spectateurs la disposition des objets dans la vie quotidienne et leur relation entre eux.
Nous, quand on voit cette œuvre, on pense à la fragilité des choses. Et on pense aussi à notre propre fragilité. Est-ce que ce n'est pas aussi l'approfondissement de cette fragilité que vous travaillez sans arrêt, quels que soient les matériaux que vous utilisez, Li ou Fan ?
Oui, je tiens compte de cet aspect. Ce n'est pas forcément sur la fragilité, mais je travaille sur les fragments, sur ce qui se détruit, ce qui disparaît. Mes œuvres ont un lien avec quelque chose qui n'est pas dur et qui se dissipe petit à petit. Les modernistes recherchaient quelque chose de solide. Ils recherchaient à créer une perfection pour qu'elle perdure à jamais. Leurs œuvres devaient être sensationnelles. Par rapport à ça, je m'intéresse aux minorités, aux plus démunis, aux choses qui disparaissent. Je propose de penser à eux. Ainsi, je demande de réfléchir non seulement à la vie, mais aussi à la mort. Il est important qu'une œuvre ait une ambivalence. Martin Heidegger, que je respecte beaucoup, disait que l'homme voulait ériger quelque chose alors que la nature voulait la faire disparaître. Cette phrase me plaît beaucoup. Je raisonne de la même manière. L'homme veut toujours construire. En Afrique ou dans les déserts, on trouve souvent des ruines d'anciennes villes dont seuls quelques piliers ou une partie de murs restent. Mais en regardant ces ruines et ces débris, on peut ressentir au contraire l'éternité ou l'infini. Quand ils sont intacts, on ne s'en rend pas compte, mais face à des ruines qui sont en train de disparaître, on ressent plutôt l'infini du temps. Je pense que c'est le fait de montrer cette ambivalence de construction et de disparition auquel doit s'intéresser l'artiste. Une bonne œuvre est celle qui arrive à montrer à la fois la vie et la mort.
Alors vous êtes très loin du figuratif, on l'aura compris, Li ou Fan, et pourtant vous n'êtes pas non plus dans l'abstraction. Est-ce que vous pourriez définir votre art? Et est-ce que cet art s'apparente à un désir d'effacement même de l'art, de la définition classique de l'art ?
Je n'abandonne pas la notion de l'art classique, mais j'essaie de m'en détacher un peu. En effet, de temps en temps, on me demande si mon art est un art figuratif ou un abstrait. Je pense que je fais les deux. En même temps, je ne fais ni l'un ni l'autre. En ce qui concerne mes tableaux, je trace un grand coup de pinceau sur la toile, mais si l'on réduit sa taille, cela devient un petit point. C'est un point, et selon la philosophie asiatique ancienne, l'univers commence par le point et finit par le point. Quand les points se réunissent, cela forme une montagne, et quand ils se dissipent, ils deviennent le nuage et finissent par disparaître. Selon cette théorie, tout se réunit et tout se dissipe. Mes coups de pinceau sur la toile d'aujourd'hui sont grands, mais j'étais parti d'un petit point. Les points en continu sont les traits et de ces derniers, des formes diverses apparaissent. Les éléments, ce sont les éléments des objets que j'utilise, donc mon art est à la fois figuratif et abstrait. Je ne suis pas en train de donner des réponses, mais au contraire, je me considère à peine arrivé au point de départ. Que ce soit un Africain, un New-Yorkais, un Parisien ou un Dokkaïte, je recherche la ligne de départ de l'art où tous les artistes du monde peuvent partir du même point. Je leur propose de se positionner au point de départ pour réfléchir sur l'art différemment. Pour cela, j'aimerais que mes œuvres soient vues à la fois figuratives et abstraites, et jamais qu'elle soit ambivalente, comme si l'on se trouvait sur une frontière.
Vous écrivez, Liu Fan, à propos de votre pratique artistique, cette phrase absolument incroyable. Quand je peins, je m'aperçois soudain qu'à mon insu, le tableau me fait peindre. Que se passe-t-il à ce moment-là pour vous ?
Je ne sais pas moi non plus.
Quand je peins, cela veut dire que je suis conscient de l'action de peindre. Mais au bout d'un certain temps de travail, tout à coup, j'ai l'impression que c'est le tableau qui me fait peindre. À ce moment-là, j'essaie de peindre selon ma volonté, mais il me semble que le tableau me l'interdit et me guide ailleurs. J'ai la sensation de me retrouver au milieu de cette vibration en tant qu'être réel en train de peindre. Ce n'est pas 100% moi ni 100% le tableau, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui fait le va-et-vient entre nous sans arrêt. Quand j'ai cette sensation, j'arrive à peindre un tableau plus intéressant. Si je peins à mon gré ou si je me laisse guider, ça devient un tableau inintéressant.
Votre peinture, quand on l'admire, quand on se met devant, c'est un peu comme rester devant des tableaux de Rothko. Il faut rester très longtemps, il faut se laisser atteindre. Il faut que les sensations, les perceptions, les vibrations rentrent à l'intérieur de votre corps en entier et cela prend du temps. Est-ce que pour vous, la peinture, c'est un art du retrait, c'est un art de la méditation, c'est un art de la coupure avec les bruits du monde, Liu Fan ?
Il y a cet aspect que vous venez de décrire. Vous avez cité Rothko. Tous les artistes slaves, les compositeurs comme les peintres, ont une facette sombre et profonde. Ce quelque chose atteint jusqu'à l'âme pour la sonner. Je ne pense pas que je possède cette force qui peut bouleverser l'âme. Devant mon tableau, où se trouvent un ou deux grands coups de pinceau, on a l'impression qu'il n'y a rien à regarder. On se dit, il y a un simple point sur la toile, et alors quoi ? Mais quand on installe mon tableau dans une salle vide, souvent, les gens ne regardent pas simplement mon tableau, mais ils ressentent qu'ils sont au milieu d'une vibration qui remplit l'espace. Ils ont l'impression que le tableau est un être vivant qui vit dans la salle et qu'il émet au milieu de la résonance vivante de l'espace. Cette résonance est une force qui pousse les gens à se ressaisir, à se sentir et à réfléchir pour finalement arriver à se connecter activement au-delà d'une méditation à un monde différent. Si devant le tableau de Rothko, l'âme semble être appelée avec une petite ambiance sombre, mes tableaux, sans vouloir aller toucher jusqu'à l'âme, semblent être vivants et donnent l'impression que l'on est dans une respiration dans laquelle on réfléchit et on se lie à un monde différent qui dépasse le soi. C'est une nouvelle dimension que mes tableaux invitent à reconnaître.
Dernière question, Liu Fan, vous écrivez « L'humanité est trop ancienne, elle est épuisée ». Elle est lasse de faire, lasse de détruire. Il ne reste plus qu'à faire en vue d'un monde du non-faire. il ne reste plus qu'à posséder en vue d'un monde du non-possédé. Comment faire ?
그런데 지금까지의 그 생산하는 방법이나 모든 것은 많은 재료를 써서
production.
많은 재료를 써서
consommer beaucoup de matériaux.
조금씩 과학도 변화가 돼서 가능한
대로 그 재료를 덜 쓰고 petit à petit,
그리고 있는 가령 태양열이라든지
permet de produire en utilisant moins de matériaux ou d'employer des ressources renouvelables comme l'énergie solaire, éolienne ou la biomasse. On est entré dans une ère où on réfléchit et où on revoit nos habitudes. Il est pourtant impossible de ne rien produire, donc il faut produire avec le moins de matériaux possible, il faut réduire la consommation. Ainsi, nous devons nous relier à quelque chose que l'on n'a pas produit. Le travail et le propos des artistes doivent conduire les gens dans cette direction. Pour cela, les descendants de Descartes doivent sortir de l'idée de son ancêtre, je pense dont je suis. Ici, il s'agit d'un être fixé qui ne change pas. L'idée de Descartes correspondait sûrement à son époque, mais aujourd'hui, on est en train de vivre une époque de déplacement et de changement. Donc, on n'existe pas parce que l'on pense. C'est une idée démodée. Aujourd'hui, c'est en changeant, en se mettant en relation avec les autres, que l'être ou le non-être peuvent résister. Il n'existe pas un moi absolu ni un autrui absolu. Pour qu'on vive ensemble harmonieusement, à l'époque de production, on produisait soi-même en masse. Il faut arrêter de se produire en masse. Ça ne veut pas dire qu'il faut produire l'autrui en masse. Cela veut dire qu'on se restreint le plus possible et on dialogue avec les autres. On doit voyager beaucoup et discuter avec beaucoup de gens. La culture et la société doivent permettre un échange entre l'intérieur et l'extérieur. Il faut relier et faire circuler l'intérieur et l'extérieur. Je pense que c'est le devoir de l'homme, de l'art et de la culture.
Ben merci beaucoup, Léo Fan. Je rappelle qu'on peut voir vos œuvres dans les musées du monde entier, plus particulièrement au Japon, aux États-Unis, mais aussi en France. Et merci beaucoup à notre traducteur du coréen, Park Eun-ji. Et je rappelle aussi qu'il y a une très belle monographie de vous qui vient de paraître aux éditions Actes Sud et qui est un livre aussi de fragments philosophiques et artistiques qui s'intitule « Un art de la rencontre » aussi aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup, Liu Fan. Merci à Élodie Royer, Corinne Amard, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.